Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. Vous le savez, hier, le gouvernement a adopté donc cette loi pour encadrer les manifestations en lien avec la pandémie de COVID-19. Mais pouvez-vous croire que la Ligue des droits et libertés est pas d'accord avec cette loi-là? Et ils nous ont envoyé un communiqué pour nous expliquer que c'était très important que les enfants dans les écoles soient exposés à toutes sortes d'opinions. Oui, je lisais le communiqué, je capotais. Ils disent « L'école est un endroit où l'enfant a le droit d'être exposé à des points de vue contradictoires. Il ne faut pas empêcher les enfants d'être mis en contact avec des opinions dissidentes. » Ben oui, bien sûr, la Ligue des droits et libertés, on va exposer les enfants à des gens qui disent « La terre est plate, il faut tuer tous les Juifs, les Noirs sont une race inférieure. » C'est quoi cette niaiserie-là? D'aller dire que d'exposer des enfants à des gens qui leur disent que le vaccin est un poison et va les faire mourir, que c'est exposer les enfants à des opinions dissidentes. Décidément, en émettant ce communiqué-là, la Ligue des droits et libertés s'est ridiculisée. Quand j'ai reçu le communiqué, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc!
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Alors, la nouvelle a fait vraiment le tour du monde. L'ancienne top modèle Linda Evangelista qui est allée sur Instagram pour dire qu'elle avait été défigurée après une chirurgie plastique qui a mal tourné. Elle dit qu'elle est complètement méconnaissable. Donc, ça a vraiment créé une onde de choc. Plein de gens qui auraient peut-être eu l'intention de faire cette procédure-là qui ont beaucoup de questions. Mais justement, les questions, on va pouvoir les poser au Dr. Éric Bensimon. Il est chirurgien plastique et esthétique. Dr. Bensimon, bonjour.
Bonjour.
Quand vous avez vu cette nouvelle-là au sujet de Linda Evangelista, quelle a été votre première réaction, Dr. Bensimon?
Ben écoutez, j'ai essayé de voir à quel point elle était défigurée sur Internet, bien sûr, et puis j'ai pas vu grand-chose. Mais je voudrais juste faire une petite précision sur votre introduction.
Oui.
Vous avez dit qu'elle a subi une chirurgie esthétique. Ce n'est pas une chirurgie esthétique qu'elle a eue, qu'elle allègue. Dans le fil de nouvelles, c'est plutôt un traitement de cryolipolyse.
Ah, d'accord. Alors, expliquez-nous, c'est quoi la cryolipolyse? Parce que c'est important, mais je suis contente que vous mettiez cette mise au point dès le début, parce qu'on va les mots sont importants. Donc, c'est quoi cette cryolipolyse?
Alors, la cryolipolyse, c'est un traitement qui est apparu dans les 10 dernières années, où le principe est d'appliquer un froid extrême aux cellules graisseuses pour que celles-ci nécrosent, involuent, puis que le gras fonde, entre guillemets.
D'accord.
Donc c'est un traitement qui est...
C'est le cool sculpting.
Exactement. Donc, pour en nommer un, c'est le cool sculpting. Donc, il s'agit donc c'est une technologie qui est non-invasive, qui n'est pas chirurgicale. C'est un processus médico-esthétique où on applique une sonde ou un appareil qui va s'appliquer sur la zone qu'on veut traiter et qui va délivrer du froid pour que les cellules fondent. Certaines patientes, et c'est connu, vont réagir de façon inverse, c'est-à-dire que au lieu que le gras fonde, ben leur corps va se mettre à produire du gras dans les zones qui ont été traitées.
Donc, l'horreur.
Ouais, un petit peu, oui. Donc ça s'appelle de l'hyperplasie adipeuse paradoxale, c'est-à-dire que ça fait en fait l'effet inverse de ce qu'on veut. C'est un effet secondaire du traitement qui est connu, qui est publié, qui est très rare, et il semblerait que c'est ce qu'elle aurait subi.
D'accord. Donc, j'essaie de comprendre. Donc, une femme qui est extrêmement belle se dit, ben moi, j'ai des petits endroits où j'ai trop de graisse. Elle veut faire disparaître la graisse. Or, la graisse, elle en produit plus. Donc, c'est sûr qu'elle devient difforme, là, parce qu'il y a des amas de graisse. Donc, quand on fait du cool sculpting, est-ce que c'est sur le corps ou c'est sur le visage? Parce que quand elle dit qu'elle est défigurée, ça laisserait entendre que ce serait dans son visage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait sur le visage?
On fait ça, en principe, en dessous du menton, du cou.
D'accord.
C'est surtout pour le corps, mais il y a des applicateurs, il y a des sondes qui sont faites pour aller sur le cou, pas sur le visage, sur les joues, à ce que je sache.
Donc, c'est possible, on peut imaginer que Linda Evangelista, si elle se les fait faire sur le cou et qu'elle a des amas de graisse sur le cou, qui ressemble peut-être à quelque chose comme à l'homme-éléphant. Donc, c'est évidemment, on peut comprendre qu'elle soit défigurée. Mais, docteur Ben Simon, vous avez commencé en précisant que ce n'était pas donc une chirurgie esthétique. On comprend bien qu'en effet, elle n'a pas été endormie, il n'y a pas de bistouri en tant que telle, donc ce n'est pas une opération chirurgicale qu'elle a subie. Mais il reste que c'est quand même une intervention esthétique. Est-ce que quand quelqu'un de très connu comme ça fait cette déclaration en disant « Écoutez, moi, ça fait 5 ans que je ne suis pas sortie de chez moi, je suis complètement défigurée, je suis en dépression », est-ce que ça va pas faire très peur à des gens qui pourraient avoir envie de voir soit cette procédure-là ou une procédure de chirurgie esthétique?
Écoutez, oui, vous soulevez un bon point, mais la question, en fait, à se poser à ce moment-là, c'est le consentement. Et ça revient toujours à ça.
Très intéressant.
Ça revient au fait que quand on va proposer un traitement à une patiente, qu'il soit chirurgical, qu'il soit non-invasif, que ça soit des injections, que ça soit n'importe quel traitement esthétique qui est fait dans un cabinet de médecin, chirurgien ou non, le principe est qu'on veut expliquer aux patientes les bénéfices, bien sûr, mais aussi les risques. Et la question, dans le cas de cette mannequin, c'est premièrement, est-ce que les risques lui ont été expliqués? Est-ce que c'est vraiment la procédure qui a causé ce qu'elle allègue? Donc, on ne connaît pas le détail de son dossier médical, on ne connaît même pas l'état de son visage actuel parce qu'il n'y a aucune photo d'elle qui est publiée. Donc, à ce stade-ci, c'est des allégations. Donc, il y a un problème, premièrement, peut-être de consentement. Est-ce qu'elle avait été avisée? Est-ce qu'elle a fait ce traitement de façon éclairée?
Oui, en toute connaissance de cause.
Exactement. Sachant que en faisant ce traitement, elle a un risque aussi faible soit-il de développer cette réaction paradoxale au traitement. Et est-ce que c'est vraiment le traitement qui a causé ce qu'elle allègue comme étant un défigurement? Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas.
En effet. Mais moi, je suis intéressée à savoir... Oui, je comprends tout à fait. Puis, je comprends tout à fait les gants blancs que vous mettez et vous marchez sur des œufs aussi. Parce qu'en effet, on sait peu de choses. On connaît son allégation à elle, mais on n'a pas tous les détails. Quand vous...
Exactement. Puis, avant de mettre le cool sculpting au bûcher pour faire une figure de style, il faudrait qu'on sache est-ce qu'elle est vraiment défigurée, est-ce qu'elle a simplement pris du poids, est-ce que elle a eu peut-être quelqu'un qui a décidé de l'opérer pour essayer de corriger un petit quelque chose et qui puis elle a subi une complication d'une chirurgie correctrice. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
C'est-à-dire qu'en fait elle le dit hein, dans son entrée, si je peux me permettre, docteur Ben Simon, dans son entrée Instagram, elle a dit que elle est déformée de façon permanente, même après avoir eu 2 chirurgies correctives sans succès et qui était extrêmement douloureuse. Donc, juste pour...
On ne sait pas si c'est la chirurgie qui a compliqué ou que le chirurgien a causé un dommage additionnel. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En principe, dans ce genre de choses, vu qu'elle dit qu'elle va poursuivre la compagnie, il va probablement y avoir une étude de son dossier, il va probablement y avoir des experts médicaux qui vont se pencher, comme c'est le cas, en fait, en cas de litige, pour déterminer quelle est la responsabilité du traitement, quelle est la responsabilité des chirurgies secondaires qu'elle a eues. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de cause avant de condamner le traitement qu'elle a subi.
D'accord. Moi, ce que je veux savoir, docteur Ben Simon, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient tentés soit d'avoir cette procédure-là, soit d'avoir des procédures plus invasives, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est quoi? De lire les petits caractères puis les effets secondaires possibles?
Ben, c'est exactement ça. En fait, ça revient à un consentement, ça revient à être bien informé, à poser les questions. Qu'est-ce qui peut arriver comme complication, comme risque, etc. Parce qu'au final, C'est là-dessus qu'on base nos décisions. N'importe quelle intervention, vous savez, quand vous prenez l'avion, vous savez implicitement qu'il y a un risque que l'avion s'écrase et que vous perdiez votre vie.
Oui.
Mais parce que tout le monde le sait, parce que c'est connu, mais dans le cas de traitement comme ça, il y a des choses que les gens ne savent pas. Alors cette complication ou cet effet paradoxal qui arrive peut-être une fois sur 1000, une fois sur 5000, ben peut-être que ça vaut la peine de l'expliquer. Écoutez, vous avez un risque d'une chance sur 5000 de subir un effet paradoxal ou un effet contraire du traitement. Est-ce que vous voulez quand même procéder à l'intervention? Mmh. En principe, pour des chirurgies, on va détailler beaucoup plus les risques et les complications.
Vous, quand vous vous apprêtez à opérer un patient ou une patiente, est-ce qu'il ou elle signe quelque chose disant « je m'apprête à être opérée par le docteur Ben Simon et je suis consciente qu'il y a peut-être des risques ».
Oui, il faut expliquer, c'est ce qui est le plus important. Il faut consigner dans le dossier qu'on a expliqué les risques et puis faire signer un consentement additionnel. C'est pas mauvais, c'est pas obligatoire, mais une explication éclairée des risques, c'est important. On nous recommande de faire ça, en fait.
Est-ce qu'il existe des procédures de chirurgie esthétique ou des procédures esthétiques qui sont zéro risque, zéro danger?
Non. Ça n'existe
pas. C'est clair.
Ça n'existe pas. Il y a des risques. Donc, il y a des risques réversibles, il y a des risques permanents, il y a des risques mineurs, il y a des risques majeurs. C'est sûr que quand vous faites, par exemple, pour faire deux cas extrêmes, vous faites un peu de Botox, par exemple, et puis qu'il y a un petit affaissement de la paupière temporaire qui va durer quelques semaines, une couple de mois, puis on sait que ça va rentrer dans l'ordre complètement. Donc, ça, c'est pas un risque qui est dommageable ou à long terme qui peut causer des problèmes. Et à l'inverse, des agents de comblement peuvent des fois causer des risques de thrombose et causer vraiment des nécroses cutanées ou des pertes de peau. Donc, il faut que les patients sachent ça en principe. Même si c'est extrêmement, extrêmement rare, ça arrive. Et il y a un risque 0-0, ça n'existe pas.
Docteur Ben Simon, en terminant, en 30 secondes, pourquoi quelqu'un qui est aussi beau que Linda Evangelista, qui a été une des plus belles femmes du monde, pourquoi elle se regarde dans le miroir et elle se trouve pas encore assez belle?
C'est une bonne question. Il faudrait lui poser la question.
Mais vous en avez plein de femmes comme ça dans votre cabinet. Peut-être même des hommes qui sont des pétards, puis qui se disent « je suis pas encore assez pétard, puis le docteur Ben Simon va me rendre encore plus pétard que je suis ».
Vous savez, c'est pas une question de beauté, c'est une question beaucoup. Ce qu'on va voir, c'est de contrer les effets du vieillissement. Donc, les patientes dans cette tranche d'âge qui sont belles ou même qui sont moins belles, en fait, tout le monde, quand on commence à avoir des signes de vieillissement, c'est là qu'on veut. C'est comprenable, vous savez, on se maquille pour contrer les effets du vieillissement, on va chez le coiffeur, puis on fait toutes sortes de choses pour contrer les effets de l'âge, du vieillissement, pour être plus belle. Donc l'esthétique médicale ou non médicale, c'est un continuum dans le désir de contrer l'âge et de lutter contre ce qui est inexorablement inévitable, c'est-à-dire de vieillir, puis de mourir, finalement.
Donc, simplement d'apprendre...
À l'humain, c'est propre à l'humain de ne pas vouloir se voir vieillir.
Oui, alors peut-être qu'on devrait tous collectivement apprendre à mieux vieillir. Puis surtout, moi, ça me fait rigoler quand je vois des gens qui s'exposent au soleil. Ils font vieillir leur peau, puis après ça, ils vont voir la chirurgie esthétique en disant « Pouvez-vous me faire rajeunir? » Puis ils dépensent des milliers de dollars sur des crèmes. Ils vous arrêtent d'aller au soleil, puis ta peau vieillira pas. Mais ça, c'est la méthode du rocher. Puis c'est peut-être pas très payant, mais je devrais peut-être la faire breveter. Merci beaucoup, Dr. Ben Simon. Ça a été très instructif. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Bonne journée.
Docteur Éric Ben Simon, qui est chirurgien plastique et esthétique et qui réagissait donc à la défiguration d'une des plus belles femmes du monde, Linda Evangelista, une Canadienne d'ailleurs.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette du Rocher.
C'est à peu près le pire cauchemar de quelqu'un qui fait une chirurgie esthétique. Vous avez sûrement vu passer cette information-là. Linda Evangelista, une des top modèles les plus connues à travers le monde, qui affirme qu'elle s'est fait défigurer après avoir subi une chirurgie plastique. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour.
J'imagine que toi aussi, quand tu as lu ça, ça a dû te donner des frissons dans le dos.
Oui, oui, absolument, parce que bon, premièrement, elle veut dire quelque chose, c'est dans l'histoire des top modèles. Linda Evangelista, c'était une beauté incroyable, là. Et c'est quelqu'un qui a un charisme, c'est quelqu'un qu'on a connu dans les années fin 80, 90, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tu sais, on peut, Cindy Crawford est très active sur les réseaux sociaux, Naomi Campbell, tu sais, on voit les autres, mais c'est vrai qu'elle, ça fait 5 ans qu'elle s'est effacée. Mais moi, ce qui est venu me chercher là-dedans, c'est qu'elle n'a pas eu une chirurgie invasive. Tu sais, parce que quand on a une chirurgie, on s'informe beaucoup de qu'est-ce qui peut se passer. Parce que souvent, l'anesthésie peut faire peur aussi. Il y a des risques à l'anesthésie. Puis quand on a, tu sais, quand on va aller enlever de la peau, peu importe, c'est sûr qu'on pose beaucoup de questions. Et je me demande, parce qu'elle, elle a eu ce qu'on appelle, c'est des soins non-évasifs, qu'elle a eu, le cold sculpting, là, parce que je veux pas démoniser ça parce qu'en fait, elle a eu un effet secondaire de ce qui peut arriver quand on arrive avec cette technique-là qui enlève les cellules graisseuses. Mais il reste que c'est des soins. Tu sais, t'es pas endormi. Je me demande, est-ce quand on arrive dans ces soins-là, les soins esthétiques non-invasifs, est-ce que ça se peut qu'on pose pas assez de questions? Parce que dans son
bonne
cas,
question.
Tu sais, je trouve qu'elle ouvre la porte à ça dans le sens que là, elle dit que ça fait 5 ans qu'elle ne sort plus, qu'elle vit en réclusion parce qu'elle est défigurée suite à ce traitement. Les effets secondaires possibles, malheureux, elle les a eus, mais elle dit que personne ne lui en a parlé avant. Et là, elle parle parce qu'elle a décidé de poursuivre ceux qui ont fait ce traitement-là. Mais elle ouvre la porte, je trouve, à des questionnements importants.
Oui, puis est-ce que tu te rappelles, il y a plusieurs années de ça, écoute, en 2004, Micheline Charest, la très connue fondatrice de Cynar, était décédée à l'hôpital. Écoute, elle s'était fait faire toute une panoplie de chirurgies esthétiques en même temps. Et je sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, moi, quand j'avais vu cette nouvelle-là, je m'étais dit, jamais... jamais de la vie je ne me ferais faire une chirurgie esthétique. Parce que bon, tu sais, tu te regardes dans le miroir, moi je me regarde. Regarde, j'ai les paupières tombantes, là, on se le cachera pas, là. Puis pendant des années, j'avais jonglé avec cette idée-là. Quand Micheline Charest est morte, ça a arrêté toute velléité. Je me suis dit, jamais je passerais sous le bistouri. Et j'ai l'impression que cette histoire-là de Linda Evangelista, qui est un pétard, ça va refroidir beaucoup de gens qui vont se dire, regarde, même la plus petite opération, je n'irai pas là.
Oui, absolument, parce que des soins non-évasifs, là, moi j'en ai eu là, des traitements pour stimuler mon collagène. Là. Tu sais, c'est au laser. Tu sais, dans le sens, il te passe un laser, puis là, ben, c'est supposé stimuler le collagène. Puis j'ai quand même vu des légers résultats. Tu sais, ça n'a rien à voir avec une chirurgie. C'est juste que c'est comme c'est pour aider ce qu'il y a déjà. Mais dans le cold sculpting, écoute, moi, j'en ai parlé souvent là, dans mes émissions. Il y a des gens qui sont venus parler de cette technique-là. Je connais des gens qui ont eu recours à ça. Parce que ça, tu sais, tu peux te faire comme... enlever du gras sans chirurgie, mais autour de la taille, les bras. Bon, je ne ferai pas la promotion de ça, mais ce que je veux dire, c'est très, très accessible et ça peut être très tentant aussi d'aller vers ces techniques-là parce que moi, j'ai comme l'impression quand tu n'es pas anesthésié puis tu n'es pas coupé, c'est moins grave. Sauf que là, je me dis, attention, il faut peut-être lire les petites lignes en bas, les risques, parce que le prix à payer dans le cas de cette ex-top modèle-là, écoute, elle n'a plus de gagne-pain, hein? Elle ne peut plus gagner sa vie. Elle est tombée en dépression.
Absolument.
Elle n'a plus elle a même un dégoût d'elle-même. Elle n'a plus aucune estime d'elle-même.
Écoute, elle dit la self-loathing, c'est de la haine de soi. Écoute, je trouve ça tellement triste, Marie-Claude, parce que tu te dis, bon, je veux dire, on se regarde dans le miroir, on peut dire, bon, j'ai tel défaut. Elle, cette fille-là, a été parmi les plus belles femmes du monde. Et tu dis, même elle ne se trouvait pas assez belle. Moi, c'est là-dessus que je veux t'entendre. C'est quand t'es rendu qu'une Linda Evangelista se regarde dans le miroir et trouve qu'il y a des choses à corriger, mais quel message ça envoie au reste de l'humanité qui est pas aussi belle qu'elle de se dire, ben qu'est-ce qu'il y avait comme qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Linda Evangelista, même sans savoir que ça aurait ce résultat-là, mais de se dire, je vais faire corriger des affaires. T'es parfaite, ma belle, pourquoi tu fais ça?
Mais c'est le regard qu'on pose sur nous avec les changements qu'apporte le temps. Et tu sais, elle a 55 ans, donc ça veut dire qu'elle a fait ces interventions-là, elle avait 50 ans. Souvent, on est post-ménopausé, ça peut arriver à 50 ans. Moi, je l'étais en tout cas à 50 ans. On ne produit plus de collagène et ça descend. Là, la gravité fait son effet sur le corps. J'appellerais ça comme ça, la gravité est forte.
Oui. Hey, tu sais quoi? Oprah Winfrey, elle appelle tout ça « going south ». Everything is going south.
Ben, exactement. Exactement. Le sud nous attire. C'est bien dit. J'aime bien ça. On est attiré vers le sud. Ouais. Mais c'est pas toujours facile à accepter, Sophie, ouais. Parce que, justement, elle, dans le fond, sa beauté, c'était probablement, tu sais, c'est ce qui l'a fait connaître. Mais elle était plus qu'une beauté. C'est une personnalité. C'est une femme qui a du charisme. Elle fait partie de ces premières top modèles qui ont marqué, qui étaient dans les vidéos, qui ont participé à des films.
Les Uber modèles, on les appelait. Les Uber.
Exactement.
Dans le temps où c'était pas une compagnie de taxi. Donc, ça voulait juste dire, les tops, là. C'est ça. C'est là que ça a commencé.
Ouais. Elle faisait partie de ça. Donc, j'imagine que quand tu te fais moins appeler, tu te fais moins regarder, peut-être que ça a pesé dans la balance. Mm-hmm. Puis en même temps, tu te dis, écoute, c'est un traitement quand même, c'est pas une chirurgie, ça m'apparaît moins pire. Mais oui, on peut se questionner pourquoi on a, tu sais, autant de misère à se regarder vieillir. Moi, je te dirais qu'il y a des matins, Sophie, je trouve ça assez difficile aussi, mais dans ce temps-là, j'arrête de me regarder. Tu sais, je veux dire, j'évite le miroir de ma voiture. Je trouve que c'est le pire au monde pour se regarder. Mais oui, ça fait réfléchir parce que tu dis, imagine, c'est une belle femme comme ça, recours à ça. Moi, à quoi je devrais avoir recours? Tu sais, dans nos pensées.
Oui, puis écoute, moi, je suis plus vieille que toi. Moi, j'ai 55 ans, je suis en plein dans ma ménopause et je vais dire, c'est sûr, on est confronté à ça, au regard qui change. Moi, je vais dire, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il faut que tu trouves en toi. Je sais que ça va sonner très nouvel âge ce matin.
Mais je t'écoute avec attention. Qu'est-ce que je dois trouver?
Ben, c'est-à-dire que il faut que tu le trouves en toi. Je veux dire, c'est en toi, puis c'est quelque chose que les femmes doivent apprendre, l'estime de soi, l'amour de soi. Et moi, je te dirais, ce qui me sauve, Marie-Claude, c'est mon chum qui, chaque matin, quand je me lève, et chaque soir, quand je me couche, et à plusieurs reprises pendant la journée, je pense que je vais lui acheter des lunettes, mais il me dit, Sophie, t'es la plus belle femme du monde. Je pense qu'on va se cotiser, on va acheter des lunettes à Martineau, mais de s'entourer de gens qui nous valorisent Marie-Claude, pas de gens qui nous dévalorisent, mais surtout de le trouver à l'intérieur de soi.
Ouais, puis je pense quand on est bien en dedans, là, sérieux, ça aussi, ça fait peut-être nouvel âge, mais il reste que quand t'es bien en dedans, ben tu finis par être bien à l'extérieur. Tu sais, l'extérieur, c'est un symptôme de d'autres choses. Tu sais, c'est pas vrai que tes rides font en sorte que tu peux pas vivre de façon épanouie. C'est que ça va pas bien en dedans. Parce que moi, j'aime bien des fois... Moi, mes rides, là, ce que j'aime de ça, là, c'est que c'est mes années d'expérience là-dedans. Mmh. On dirait que j'ai pas envie qu'on m'enlève des années. Moi, je veux pas qu'on me dise « Mon Dieu, t'as de l'air plus jeune que ton âge. » Non! Moi, j'ai 52 ans, puis c'est pas le 40 ans de... Tu sais, 50 ans, c'est pas 40 ans, là. C'est 52 ans. Quand les gens me disent « Ben non, mais tu sais, maintenant, 52 ans, c'est comme le 40 ans. » Non, pas en tout. Non. Moi, je me sens pas comme à 40 ans. Je me sens comme à 52 ans, puis je trouve qu'il faut arrêter, justement, de toujours réduire l'âge parce que ça fait que on veut se rajeunir. Faut arrêter ça. Moi, je pense qu'on a l'âge qu'on a, puis je le répète, peut-être que je l'ai déjà dit au micro parce que je suis un peu fatigante avec ça. Il y a des gens, moi, que je connais qui sont décédés, hein, qui sont dans des columbariums, qui sont dans des cimetières, et je pense qu'ils reviendraient pas mal pour avoir des rides. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de rider. Moi, j'ai des amis qui sont décédés jeunes, et je peux te dire que des fois, quand je trouve ça dur, moi aussi, de vieillir, je me dis... Caroline, ou encore Yvon, ou encore un autre, Rider, là, ben ça aurait dit qu'on est vivant. Parce que c'est ça aussi. Vieillir, c'est parce qu'on est vivant. Arrêter de vieillir, c'est parce qu'on est décédé. Oui. Alors, il y a pas de façon d'arrêter de vieillir, mais elle fait réfléchir parce que ces soins-là sont très faciles d'accès, sont coûteux, mais moins que des chirurgies. Donc, il faut vraiment s'informer des effets secondaires. Et je crois que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est ça, c'est dire « Hey, attention, moi, j'y suis allée en confiance et finalement, ma vie, présentement, ça va pas du tout, du tout. » Je pense que, tu sais, tout le monde en parlait hier, hein, dans tous les pays, on parlait totalement de Linda Evangelista. C'était très marquant.
Oui. Alors, plus tard dans l'émission, je vais avoir une entrevue justement avec un chirurgien esthétique qui va pouvoir nous parler des avantages et des inconvénients et des risques de cette chirurgie-là. Oui. Je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, c'est Evelyne, écoute, ma cousine qui était plus âgée que moi. Elle est morte à 48 ans d'un cancer généralisé. Écoute, elle a eu son diagnostic à Noël. Elle est morte en mai. Et chaque fois que je me dis « Ah, ben là, j'ai des cheveux blancs. Ah, ben là, je commence à avoir un bourrelet. Ah, je commence à avoir ci. » Ben, je pense à Evelyne en me disant « Ben, pendant qu'elle elle est 6 pieds sous terre, ben moi, je suis bien vivante et je dois vivre avec tout ce qui... » C'est le fun, en fait, de continuer à grandir et de continuer à être les deux pieds sur terre plutôt que d'être 6 pieds sous terre. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Écoute, Marie-Claude, je veux qu'on prenne du temps pour parler de la manifestation d'aujourd'hui, donc des jeunes qui font la grève, qui vont pas à l'école et qui marchent pour le climat. Je suis ambivalente en général avec ce genre de truc-là, parce que ce genre de manifestation-là, parce que je trouve que les jeunes, c'est bien le fun, OK, on descend dans la rue, on défend l'environnement, puis en même temps, les jeunes fument, les jeunes ont plein de... Tu sais, ils sont tous là avec leur iPhone, toutes sortes de trucs qui sont tout à fait néfastes pour l'environnement. Je me demande des fois à quoi ça sert ce genre de journée-là.
Ben OK, moi aussi là ces marches là, je suis tout le temps comme ben qu'est-ce que ça donne? Tu sais que je me pose beaucoup les questions, puis quand ils font des vox populi, il y en a plusieurs qui savent pas tant pourquoi ils marchent. Puis après ça, je me suis dit OK, une minute. Mettons moi j'ai 20 ans là, parce que c'est sûr que l'environnement, le climat, ça me préoccupe beaucoup et ça préoccupe beaucoup les générations qui viennent après, parce qu'ils vont dire mais qu'est-ce qui va nous rester de cette planète, et les messages sont alarmants. Tu sais, quand on écoute, il faut pas arriver à l'emballement du climat parce que là ça va pas aller du tout, le réchauffement va s'accélérer, puis bon, on nous dit on est dans ce processus là. Hier on voyait qu'à l'ONU c'était vraiment le sujet, le climat, et il y a un impasse parce que la Russie puis la Chine disent non, nous autres on n'a pas envie de, parce qu'on parle de sécurité, parce qu'on doit déplacer des gens à cause du réchauffement de la planète. Mais même, tu vois, ça commence, ça fait longtemps, mais on sent que ça s'accélère. Il devra y avoir des ententes. Alors, pour revenir à la marche, moi, mettons que je suis pas cynique, admettons que je suis positive, ce que je trouve beau quand même, c'est de se rassembler pour une cause, de sentir que, parce que c'est très anxiogène, hein, tu sais, l'éco-anxiété, ça existe, et puis pour arrêter l'anxiété, ça prend des actions. Et une marche, c'est une action. Alors, de se mettre en marche, pour ceux pour qui la cause, ils vont pas là juste pour marcher, puis il y en a beaucoup qui vont là pour la cause. Alors, ces jeunes-là qui vont pour la cause, et de savoir qu'ils sont pas seuls, et de se dire, ben écoute, peut-être que quelqu'un va nous entendre. Pour plusieurs, ça calme les esprits et ça va peut-être aussi leur donner le goût de s'engager de façon encore plus concrète. Parce que une marche, c'est un moyen de se faire entendre. Mais il faut d'abord aussi savoir qu'est-ce qu'on veut faire entendre, à qui on adresse qu'on veut faire entendre, écrire des propositions. C'est beaucoup de choses qui amènent à une marche. Alors, je me dis, si ça peut stimuler des jeunes. Puis moi, finalement, quand je regarde les images de la marche, moi, je trouve ça beau. Des gens qui se rassemblent pacifiquement pour une cause, et ils ont raison de sonner l'alarme, parce que ça va pas du tout présentement sur la planète. Écoute, tout ce qu'on lit comme statistiques...
Ah non, c'est sûr.
Ça va pas. Et c'est ça, tu sais, je pense qu'à l'époque, il y avait la souveraineté pour les jeunes. Mais aujourd'hui, les marches, c'est pour le climat. Donc, c'est très altruiste aussi. C'est pour dire, hey, on est là, on veut vivre dans un endroit qui sera sain. Et en même temps, on doit tout faire un effort. Donc, finalement, je te dirais que la marche, je trouve que pour moi, elle prend beaucoup plus de sens, surtout en pandémie. On dirait qu'il n'y en a pas de rassemblement. Nos jeunes se sentent très, très isolés au cours des derniers mois. Alors, de leur donner un répit, de dire ensemble et d'avoir l'impression de peut-être changer quelque chose, ça fait du bien. C'est sûr, ouais, que ça leur fait.
Alors,
du bien.
Tu disais que c'est important de se rassembler pour se faire entendre. Juste pour finir sur une note hyper cynique et hyper sarcastique, on a un ministre de l'Environnement au Québec, il s'appelle Benoît Charrette.
Ouais.
Ben, il était à la marche en septembre 2019 et il n'est pas à la marche aujourd'hui.
Je le sais.
Absolument.
Mais ça,
hallucinant.
Moi, je ne comprends pas quel engagement il pouvait avoir parce qu'il disait qu'il y avait un autre engagement.
Oui, oui. Il est occupé.
Était plus important que la marche et surtout avec nos jeunes pour leur donner de l'espoir.
Ben écoute, c'est comme Obélix, tu sais, Obélix, il y a toujours un sanglier sur le feu là. Ben je pense que c'est le ministre Charrette, il y avait un sanglier sur le feu. Et hey, merci beaucoup Marie-Claude. Bonne fin de semaine puis on se retrouve lundi.
À lundi, bye bye.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Écoutez.
Sophie Durocher.
Moi, j'adore suivre Martin Petit, l'humoriste, acteur, scénariste sur Twitter. Il est toujours drôle. Puis hier, il a retweeté quelque chose, une nouvelle qui est absolument hallucinante. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Martin Petit, bonjour.
Allô, bon matin.
Écoute...
J'ose bon matin, moi, quand même si ça a l'air que ça se dit pas.
Non, ça se dit pas, puis j'haïs ça, mais toi, t'as le droit, parce que je t'aime. Martin, hier, on est tous tombés en bas de notre chaise quand on a appris que l'Office national du film avait un nouveau poste de directrice diversité, équité et inclusion. Ben, tout le monde est pour ça, l'inclusion. Mais ils ont nommé quelqu'un qui s'appelle Rachel Decoste, qui, il y a pas très longtemps, se réjouissait quand la commission scolaire en Ontario a décidé de détruire 5000 livres. Elle applaudit à ça, elle trouve ça formidable. Toi, ça t'a heurté.
Ben, en fait, moi, je trouve que c'est l'épisode quasi journalière d'exemple de cette philosophie-là qu'on appelle, ce grand chapeau qu'on appelle woke. Ben, il y a des gens qui deviennent des professionnels de cette idéologie-là. Puis des idéologies, c'est jamais bien ben dangereux quand c'est ton prof de tennis qui est là.
Ouais.
Parce que quand c'est ton prof de tennis qui se radicalise soit à gauche soit à droite, ben ça reste que à tous les jours, ben c'est un gars qui t'apprend à frapper ta balle de tennis. Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand ces gens-là ont des postes haut placés et dans des endroits qu'on sait pas, puis qu'on apprend, et là, c'est à tous les jours, puis à chaque fois que, comme dans l'histoire de Brûler des Astérix, ben tout le monde était d'accord 24 heures plus tard que c'était une profonde stupidité et que ça témoignait d'un manque de lucidité, puis que la personne qui était à la tête de ça était probablement déséquilibrée mentalement. Ça, c'était clair pour tout le monde 24 heures après. Mais ce qui était merveilleux, c'est de voir qu'il y a du monde pendant ces 24 heures-là qui sont allés sur Twitter, d'autres sur Facebook, des professionnels de la culture pour dire que, ah, ben eux autres, leur premier réflexe, c'est de dire « Je suis tout à fait d'accord avec le fait de brûler des livres. » Et c'est merveilleux, c'est comme mettre une trappe à souris avec du fromage, c'est que t'attrapes le monde avec ce genre d'affaires-là, puis moi, ce que je constatais, c'est que, bon, ben, il y a quelqu'un qui s'est pris dans la trappe à souris, parce que, puis là, ça révèle, tu dis, ah, OK, donc, toi, t'es payé dans un domaine culturel pour être d'accord avec le fait de brûler des livres. Ça n'a aucun sens, tout ça, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça a du sens, et qui sont payés pour continuer cette idéologie-là. Fait que je trouve pas ça épeurant, autant que je trouve ça particulièrement irritant.
irritant. Mais toi, on te connaît, t'es quand même une grande gueule, Martin, puis sur tes réseaux sociaux, souvent tu prends position, mais combien de personnes restent cachées puis osent pas se prononcer sur ce genre de dossier-là? T'as pas peur que, justement, en prenant position contre ça, que les gens fassent une association à l'inverse en disant « Oh, Martin Petit, il dénonce cette dame-là, elle est noire, elle est pour l'inclusion, donc Martin Petit, c'est juste un raciste. » Puis il aime pas ça quand on prend la défense des Autochtones. T'as pas cette crainte-là que quelque part il y a des gens qui comprennent rien à ce que tu dis?
Ben, je pense pas que j'aurais fait ce métier-là pendant 30 ans si je m'étais toujours ajusté aux imbéciles. Fait que il y a toujours des imbéciles, puis si tu me demandes est-ce que je tiens compte des commentaires imbéciles, non. Je l'ai jamais fait. Puis j'aime ça parce que je pense que pour moi, le fait de faire ça, non seulement c'est utile parce que après ça, je fais des spectacles. Et si malheureusement ces gens-là avaient pensé que je faisais de l'humour qui était pour eux, pour les imbéciles, là, je te parle. Ben, il serait pas au bon endroit, puis il aurait dépensé de l'argent à mauvaise place.
Donc,
moi,
c'est
un filtre.
Oui, ça, c'est
public.
Ça. C'est pour éliminer les imbéciles, puis t'assurer qu'ils sachent à qui ils ont affaire quand ils vont voir
Exactement.
Ton spectacle.
C'est une responsabilité. Moi, je suis pas hypocrite. Je suis le plus honnête possible envers les gens. Tu vois, j'étais en spectacle hier à l'Assomption. Super public. Évidemment, tout le monde a son passeport vaccinal. On a eu du fun, on a trippé. Puis j'étais avec un public qui riait toutes mes jokes parce qu'il comprenait toutes mes jokes. J'aurais pas voulu d'être dans une salle du monde qui ont été attirés pour des fausses raisons parce qu'ils me trouvent juste beau. Puis qu'ils savent pas c'est quoi mon contenu. Fait que je pense que, tu sais, un artiste qui fait de l'éditorial comme moi, comique, ben j'ai tout avantage à dire qui je suis. Comme ça, ça fait un tri. Puis les gens qui trippent sur d'autres choses, ben ils iront voir d'autres personnes. En tout cas, moi, les choses sont claires. Évidemment, tu sais, le problème avec de critiquer, que ce soit à gauche ou à droite, ben c'est ça, les insultes viennent, mais en général ils se rendent pas à moi parce que je sais pas, les gens ont comme un instinct que ça vaudrait vraiment pas la peine, puis je suis pas quelqu'un qui tient compte de commentaires d'hurlu-berlu, mais ça me tient à cœur le racisme toujours, puis je fais partie des gens pour qui c'est quelque chose que je pense que tout le monde lucidement, puis quand tu veux qu'une société fonctionne bien, tu peux pas être raciste parce que tu te dis, on a besoin du maximum de gens compétents dans une société. Mm-hmm. Puis surtout au Québec. Au Québec, on est tellement un tout petit peuple sur la planète, on représente 0,1% de la population mondiale. On n'a pas le choix de miser sur la compétence des Québécois, puis de tous ensemble. Maintenant, la couleur de la peau a rien à voir avec, évidemment, la compétence. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un système qui prône le fait d'être compétent, et évidemment, peu importe ta couleur de peau, fait que je m'en fous complètement. Moi, c'est la compétence, c'est la seule façon qu'on va y arriver. Moi, quand tu ne me parles pas de compétence, déjà, je décroche. Si tu me parles d'apparence, je décroche parce que tu viens de tasser la compétence. Puis ça fonctionne pas.
Ouais. Mais Martin, je veux juste revenir à ce sujet-là parce que ça avait vraiment été un gros scandale quand on a appris qu'il y a des livres qui avaient été brûlés, et le fait que cette dame-là qui dit moi je trouve ça génial, je trouve ça formidable, on y donne une grosse job qui va sûrement être très 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 bien payée avec mes impôts et tes impôts pour aller propager ce genre d'idéologie-là à l'Office national du film, qui est un organisme pan-canadien, comme créateur, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que des gens qui sont pour le fait de brûler des livres sont présents partout dans nos institutions, Martin. Moi, c'est ça qui me terrifie.
Oui. Oui, oui. Ben non, c'est... Ben, en fait, c'est pour des gens qui travaillent en culture, dont toi, dont moi, dont un paquet de monde, c'est sûr que c'est inquiétant. Parce que effectivement, autour de la réunion, c'est souvent des gens qui ont des postes dans des bureaux, puis on ne sait pas quelles sont leurs compétences, mais ils ont un certain pouvoir, puis ils donnent des orientations à des programmes de subvention, puis les artistes sont pas présents pour faire « Hey, vous n'avez pas de bon sens », puis ça fait des grilles d'analyse, puis on choisit le monde pour des raisons qui sont loufoques, puis qui sont pas efficaces. Mais c'est souvent, ça s'infile dans des domaines, si tu veux mon avis, là. Ça s'infile dans des domaines où tu peux pas vérifier la compétence des gens facilement. C'est pour ça que cette idéologie-là s'infiltre partout où tu peux pas mesurer la valeur d'une personne dans son cadre de travail.
C'est pas comme quelqu'un qui est, mettons, là. Si tu vends des chaussures, ben là, si tu fais augmenter la vente de chaussures de 10%, on a une façon de mesurer ta compétence. Mais dans le domaine artistique, tu mesures ça comment?
De chaussures, là, il y a pas un propriétaire, c'est un très bon exemple. Mais il n'y a pas un propriétaire de magasin de souliers qui va faire plus travailler sa moins bonne vendeuse parce qu'elle est blanche si sa meilleure vendeuse est noire. C'est sûr que ta meilleure vendeuse est noire, elle a les meilleures heures puis elle travaille parce que c'est elle qui te fait gagner ta vie. C'est la compétence qui est récompensée puis c'est pas la couleur de la peau. Mmh. Donc ça, dans la majorité des milieux, c'est assez facile à vérifier. Fait que c'est souvent des milieux où il y en a pas de problème. Il y a pas de problème de diversité puis de racisme. C'est des gens qui, c'est la compétence qui prime puis les gens sont valorisés là-dedans. Dans des domaines comme l'Office national du film, c'est très difficile de vérifier la compétence des films qui n'ont pas été choisis, ils n'ont pas été tournés. C'est difficile de dire, ouais, mais ce film-là, il était meilleur, il n'a jamais été fait.
Mais c'est ça.
Il a été limité avant même d'être fait.
Mais c'est ça, c'est que si on nomme quelqu'un qui va s'immiscer dans tous les processus de faire des films, qui pense que c'est une bonne idée de brûler des livres, ben, je veux dire, on s'en va vers quoi? Une société où on va brûler des films? C'est ça qui est inquiétant. Écoute, Martin, il nous reste 30 secondes. Je veux juste
juste terminer, ouais, faut préciser qui est le boss de cette personne et qui accepte d'avoir cet employé. Voilà.
Ben moi, je pense que l'ONF doit se justifier aujourd'hui des déclarations de Mme Decosse. Là, c'est complètement hallucinant. On n'accepterait pas ça dans n'importe quel autre domaine. En politique, puis tout ça, on dirait, ben voyons, cette personne-là a dit une grosse niaiserie. Mais là, ça a l'air qu'à l'ONF, ça passe.
Chez Renaud Bré, je t'aurais mis à part.
Oui, c'est ça.
Je te mettrais à la porte demain matin.
T'es d'accord de brûler des livres.
Si tu tweets ça, ben t'es à la porte. Bye.
Hey Martin, c'est ton anniversaire. Merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Puis bon, tes prochains spectacles sont en octobre. T'es en tournée un petit peu partout. Merci beaucoup, Martin Petit.
Un plaisir. Bye.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes reliés à la pandémie. Au-delà de la pandémie elle-même, beaucoup d'effets secondaires, on peut dire ça comme ça. Et un de ces effets-là, c'est la consommation d'opioïdes qui a augmenté, qui fait vraiment des ravages. On va en parler avec la docteure Marie-Ève Morin, elle est médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique La Licorne. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Alors, comme si c'était pas suffisant d'avoir cette pandémie qui nous empoisonne la vie depuis plus d'un an et demi, ça a des incidences aussi sur la consommation d'opioïdes. Comment on fait un lien entre ces deux éléments-là?
Ben, d'abord, comme vous l'avez mentionné, on parle de la pandémie qui était une crise en soi, mais la pandémie de la COVID a un peu éclipsé ce qu'on appelle la crise des opioïdes, qui était vraiment pas résolue au moment où la COVID est arrivée. La crise des opioïdes n'était pas terminée, puis c'est loin de s'être terminée, au contraire. Parce que quand on dit pandémie, on dit confinement. Et qui dit confinement dit évidemment isolement, carence relationnelle. Il y a beaucoup de gens, toxicomanes ou non, qui se sont mis à développer des symptômes d'anxiété, de dépression. Il y a même des gens qui ont développé des symptômes de choc post-traumatique. Avec l'arrivée de la pandémie. Et on sait aussi que au début de la pandémie, en particulier, l'accès aux soins de santé, tel qu'on la connaît habituellement, était un peu paralysé. Hein. Les gens n'osaient pas consulter
en effet.
À l'hôpital. On se faisait dire de ne pas y aller, en plus, parce que tout était priorisé pour la COVID. Alors, il y a beaucoup de gens, comme je vous dis, dépendants ou non, qui se sont mis à s'auto-médicamenter, qui se sont mis à consommer soit davantage qu'ils consommaient à l'habitude, ou des nouveaux consommateurs aussi, pour un peu se calmer, se traiter, se faire du bien, se soulager. Il y a aussi toute la solitude hein, que les gens ont vécue pendant la pandémie. Fait que il y a plusieurs facteurs, mais entre autres, il y a l'isolement. Il y a aussi la fermeture des frontières hein, qui fait que la qualité des drogues qui circulent en ce moment, elle est très, en fait, dangereuse. Il y a beaucoup de drogues coupées. Et un dernier facteur que je vous mentionnerais, c'est qu'en consommation, dans la réduction des méfaits, on demande toujours aux gens de ne pas consommer tout seul. Hein, parce que s'il survient une surdose, par
bien
exemple,
sûr, ben, personne n'est là pour
on
les
peut
aider.
Intervenir. Exactement. Alors qu'en pandémie, tout le monde était confiné, les gens se sont retrouvés seuls, on pouvait pas vraiment sortir. Donc oui, il y a des gens qui sont morts seuls dans leur appartement d'une surdose, simplement parce qu'ils étaient seuls. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que la crise des opioïdes semble être réapparue, ou en tout cas, on la voit encore là, vraiment avec la pandémie. Il y a plus de décès qu'il y en avait par surdose.
Oui. Écoutez, il y a un phénomène aussi. Bon, quand on pense opioïdes, on se dit, bon, des gens qui sont des dépendants, mais ça se développe une dépendance aux opioïdes. Par exemple, quand on est opéré puis qu'on nous donne des petites pilules pour la douleur, ben elles sont le fun, ces petites pilules-là. Fait qu'on en prend une, puis après, on en prend deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et on développe cette dépendance. Est-ce que ça, ce phénomène-là, a augmenté pendant la pandémie?
Ça, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais vous avez tout à fait raison. Quand on parle de la dépendance aux opioïdes, on s'imagine toujours les gens là, qui s'injectent là, dans la rue, là, ceux qu'on voit des fois dans les reportages à la télé. Mm-hmm. Toute la clientèle de douleurs chroniques, tous les gens qui souffrent de douleurs chroniques ou qui ont eu des interventions chirurgicales et oui, se font prescrire des opioïdes, sont tous à risque, oui, de développer une dépendance physique. Et malheureusement, une fois que la dépendance physique est installée, les gens, à un moment donné, ont pas toujours accès à la prescription d'opioïdes initiale, mais ont besoin d'en prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers la rue parce qu'ils se vendent beaucoup d'opioïdes illicites dans la rue. Et c'est là qu'on voit augmenter les risques de surdose en raison, entre autres, du fameux fentanyl. Mais oui, vous avez raison de le dire, c'est pas tout le monde qui s'injecte des opioïdes qui devient dépendant. Là. C'est pas tous des héroïnomanes. Beaucoup de gens là-dedans, là, comme vous et moi, ou comme des gens qu'on connaît qui ont des douleurs chroniques, qui meurent de surdose d'opioïdes, même s'ils les prennent par la bouche.
Mais je veux juste vous raconter une anecdote personnelle. Bon, ça fait plusieurs fois que j'en parle. J'ai été opérée pour, c'est rien du tout, là, la vésicule biliaire. Ils m'ont enlevé la vésicule biliaire. Quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a remis une prescription pour de l'oxycodon. Fait que j'arrive à la pharmacie, on me donne une prescription pour 5 oxycodons. Le premier soir, j'avais vraiment super mal. J'ai pris de l'oxycodon. C'est bon, c'est le fun. J'avais plus mal. Oui. J'étais comme sur un nuage. Je me suis retournée vers mon chum. Puis j'ai dit, demain matin, on retourne à la pharmacie. Je veux retourner mes autres oxycodons. C'est trop tentant.
Très sage de votre part parce qu'il y a des gens qui n'auront pas eu le... Imaginez, vous, ça allait peut-être pas si mal dans votre vie globalement, tu sais, mais imaginez que vous êtes, je sais pas moi, en instance de séparation, en instance de faillite. Vous avez une douleur chronique, puis là, vous tombez sur un comprimé d'oxycontin, puis là, mon Dieu, waouh, il n'y a plus de problème, là, vous êtes gelé physiquement et mentalement, puis vous êtes même un peu euphorique. Bien, c'est sûr que c'est tentant d'en reprendre. Mais ce que je vous félicite de ce que vous avez fait, c'est quand même rare que les gens vont avoir la... Je l'entends des fois aussi pour les gens qui essayent, par exemple, la cocaïne pour la première fois de leur vie. Ils disent, je ne peux jamais en faire, c'est trop bon. Fait que ça, c'est un réflexe très, très courageux, mais c'est pas tout le monde qui a malheureusement ce réflexe-là de dire, c'est trop bon, j'en reprendrai plus.
Mais moi, la question que je voulais, mais la question que je voulais vous poser, Dr. Morin, c'est est-ce qu'on ne devrait pas en amont, c'est-à-dire que moi, c'était pas, j'avais pas une grosse opération, pourtant, on m'a donné une prescription pour 5. Je veux dire, est-ce qu'on devrait pas, est-ce qu'il n'y a pas une surprescription d'opioïdes? Est-ce qu'on ne devrait pas régler ce problème-là à la base, puis pas donner ça à tout le monde? C'est pas des Tylenol, là?
Non, tout à fait, mais je pense qu'au niveau des prescriptions d'opioïdes, là, depuis le 2016, depuis la crise des opioïdes qui a commencé surtout dans l'Ouest canadien, les médecins sont beaucoup plus sensibilisés qu'auparavant. Puis d'ailleurs, la preuve de ça, c'est si vous avez mis une prescription pour 5 comprimés ou 100 comprimés?
5?
Ben 5, c'est rien. C'est ça, c'est une prescription raisonnable. Mais imaginez-vous qu'il y en a, là, des fois même qui sortent pour, je ne vais pas pointer les dentistes, là, mais... Il y a des adolescents maintenant qui, vous savez, des ados aiment bien les opioïdes aussi. Ils connaissent ça et il y a des ados, maintenant c'est rendu quasiment un running gag là, quand il y en a un qui fait enlever les dents de sagesse. Ben là, il dit à sa gang, ben je vais ramener des oxycontins.
Hein?
Ils partagent entre eux. Puis oui, il y a des jeunes qui vont consommer. C'est comme le party là, quand il y en a un qui revient de chez le dentiste. Fait que oui, ça se consomme pas seulement chez les adultes, mais chez les ados aussi dans certains contextes. Et je vous dirais que le nombre de comprimés peut varier beaucoup d'un intervenant à l'autre, mais moi j'ai déjà vu des 30, 40, 100 comprimés suite à une cirrhosie remis à un patient en une seule fois. Fait que ça, oui, c'est des choses qui devraient être appelées à changer. Mais oui, c'est des choses qui devraient être appelées à changer. Mais je vous assure, Mme Durocher, que oui, il y en a encore parce que les opioïdes, c'est un médicament essentiel en médecine. On n'aura pas le choix de s'en servir dans certaines douleurs. Mais il y a eu beaucoup de sensibilisation auprès des médecins, je peux vous l'assurer. Puis il n'y a pas un médecin qui n'est pas au courant qu'on est dans une crise des opioïdes. Donc, je pense que oui, il y en a encore de la prescription, mais je pense qu'il y a moins de surprescription qu'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont rendus à l'acheter dans la rue. Donc, le marché a changé. Le marché illicite des opioïdes a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans les deux dernières années. On est rendu avec des nouveaux super opioïdes qu'on n'avait jamais vus avant.
Il s'appelle
plus
comment?
Il y a l'isotonitazène. Ça, c'est 5 fois plus fort que le fentanyl.
Aïe!
Il y en a un autre qui s'appelle le carfentanyl, qui est 100 fois plus puissant que le fentanyl. Et ça, on en retrouve dans la rue. Fait que pourquoi vous pensez qu'il y a autant de surdoses? On parle de 15 surdoses mortelles par jour que j'entendais à la santé publique hier. Vous savez qu'on a eu un pic de décès, 23 surdoses mortelles en juillet 2020 à Montréal seulement. Enfin, c'était du jamais vu. Donc, la crise des opioïdes n'est vraiment pas terminée, au contraire.
Mais
il ne faut pas se décourager. Là. Il y a quand même des pistes de solutions. Il y a l'analyse de substances, il y a les sites d'injection supervisée, il y a l'éducation des médecins et de la population. Il y a des pistes de solutions, mais on n'a pas fini d'en entendre parler, ça c'est sûr.
On a beaucoup de publicité sociétale, le gouvernement qui nous dit ben faites attention à ceci, faites attention à cela. On serait-tu dû pour une publicité sociétale pour attirer l'attention de tout le monde sur le danger et justement sur cette crise des opioïdes?
Ben il y en a eu beaucoup, il y en a encore, il y en a des campagnes, des annonces à la télé qu'on voit parfois.
Ben, je les vois pas passer, docteur Morin. Je les vois pas passer.
Ça dépend quel poste vous écoutez, je ne sais pas. Mais il y en a eu quand même des campagnes. Mais c'est très difficile hein, parce que tout le monde pense que c'est pas dans leur cours, hein, la défense aux opioïdes. On pense toujours que c'est les gens de la rue, les junkies, les gens qu'on voit à la télé, qui vont au site d'injection supervisée. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg de tous les opiomanes qui existent. Si vous avez quelqu'un qui habite, je sais pas moi, Outremont, ou qui a son salon, ou qui a des moyens de... Il n'ira pas dans un site d'injection supervisé. Il va s'injecter chez lui. Et ces gens-là, on les voit pas. Fait que ça, le visage de la dépendance aux opioïdes, c'est beaucoup plus large qu'on pense.
C'est en effet assez inquiétant. Ben merci de continuer à tirer la sonnette d'alarme. Puis je veux juste finir en disant quand je m'apprêtais à rentrer dans la salle d'opération, le chirurgien m'a dit Madame Durocher, quand vous allez sortir, on va vous prescrire des médicaments. Faites attention. Et je le remercie, ce docteur-là. Le docteur Wang, il me l'a dit. Il m'a dit, faites attention, si vous pouvez éviter le plus possible d'en prendre, vous allez mieux vous porter. Ben, je pense que ça prendrait pas mal plus de docteur Wang dans le système de santé.
Oui, il faut le dire. Les pharmaciens aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Puis quand on a des pilules pour la douleur, il faut faire attention, même après une chirurgie, il faut attendre de commencer à sentir la douleur avant de prendre un comprimé et non le prendre avant que la douleur apparaisse parce que c'est là qu'on va développer une dépendance.
Très bien dit.
Essayez d'étirer le plus possible. Et une dernière chose que je vais vous dire.
Oui, allez-y.
N'oubliez pas qu'il existe un antidote pour les surdoses d'opioïdes qui s'appelle la naloxone ou le Narcan. Et ça, c'est quand quelqu'un fait une surdose d'opioïde, tombe endormi, arrête de respirer, on lui donne une dose ou plusieurs là, de naloxone et ça peut vraiment ramener quelqu'un à la vie. Donc, la naloxone, je pense que tous les consommateurs devraient avoir ça avec eux. Moi, j'en ai une dose dans mon auto, une dose dans mon bureau, une dose dans ma sacoche. J'en traîne partout, puis ça m'a déjà servi.
pour quelqu'un qui était en train de faire une surdose avec qui vous étiez en contact.
Oui,
mais ce ne sont...
C'était quelqu'un sur la rue, tout simplement.
Non.
Qui faisait une surdose, puis on est intervenu. Et on a réussi à ramener cette personne-là. Puis les intervenants communautaires font ça à tous les jours, Mme Durocher.
Incroyable.
À tous les jours, de la naloxone.
Bon, ben écoutez, je pense qu'on va sortir de cette entrevue collectivement en sachant beaucoup plus puis en étant beaucoup plus alerté à tous ces dangers-là. Fait que, donc, juste un petit rappel, les opioïdes, c'est pas des Smarties, puis c'est pas des Tylenol. Fait que, donc, faisons extrêmement attention, tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Morin.
Merci, Mme Durocher. Bonne fin de journée.
Marie-Ève Morin, qui est médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique La Licorne. Bon, les dangers de la chirurgie esthétique, les dangers des opioïdes, les dangers de la rectitude politique, c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la réalisation, la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là, à l'écoute, à Cube. Passez une excellente fin de semaine et puis on se retrouve avec le plus grand plaisir lundi.
Cube Radio.